Bientôt après l'ambassade de nos bons hommes Morbec et Brévent, ce fut Mgr Philippe d'Évreux Navarre, comte de Longueville, qui vint lui-même en Angleterre. Blond, de belle taille et de nature fière, Philippe de Navarre est aussi loyal que son frère est fourbe, ce qui fait que, par loyauté à ce frère, il en épouse, mais de cœur convaincu, toutes les fourberies. Il n'a pas le grand talent de parole de son aîné, mais il séduit par la chaleur de l'âme. Il plut fort à la reine Philippa, qui dit qu'il ressemblait tout à fait à son époux, au même âge. Ce n'est pas grande merveille, ils sont cousins plusieurs fois. Bonne reine Philippa. Elle a été une demoiselle ronde et rose qui promettait de devenir grasse, comme souvent les femmes du Hainaut. Elle a tenu promesse. Le roi l'a aimée de bon amour, mais il a eu, l'âge venant, d'autres entraînements du cœur, rares mais violents. Il y eut la comtesse de Salisbury, et à présent c'est Damalis Perrère, ou Perrière, une suivante de la reine. Pour calmer son dépit, Philippa mange, et elle devient de plus en plus grosse. La reine Isabelle, mais si, elle vit toujours. Du moins, elle vivait encore le mois dernier, à Castle Rising, un grand et triste château où son fils l'a enfermé, après qu'il eut fait exécuter son amant, Lord Mortimer, il y a 28 ans. Libre, elle lui aurait causé trop de soucis, la louve de France. Il vient la visiter une fois l'an, au temps de Noël. C'est d'elle qu'il tient ses droits sur la France. Mais c'est elle aussi qui a causé la crise dynastique en dénonçant l'adultère de Marguerite de Bourgogne et fournit bonne raison pour écarter de la succession la descendance de Louis Hutin. Il y a de la dérision, vous l'avouerez, à voir 40 ans après le petit-fils de Marguerite de Bourgogne et le fils d'Isabelle faire alliance. Ah, il suffit de vivre pour avoir tout vu. Et voilà Édouard et Philippe de Navarre à Windsor, remettant en chantier ce traité interrompu et dont les premières assises avaient été posées lors des entretiens d'Avignon, toujours traité secret. Dans les rédactions préparatoires, les noms des princes contractants ne devaient pas figurer en clair. Le roi d'Angleterre y est appelé l'aîné et le roi de Navarre le cadet, comme si cela pouvait suffire à les masquer et comme si la teneur des notes ne les désignait pas à l'évidence. Ce sont là précautions de chancellerie qui n'abusent guère ceux dont on se défie quand on veut qu'un secret soit gardé. Eh bien, il ne faut pas l'écrire, voilà tout. Le cadet reconnaissait l'aîné pour le roi de France légitime. Toujours la même chose, c'est le début et l'essentiel, c'est la clé de voûte de l'accord. L'aîné reconnaît au cadet le duché de Normandie, les comtés de Champagne et de Brie, la vicomté de Chartres et tout le Languedoc, avec Toulouse, Béziers, Montpellier. Il paraît qu'Édouard n'a pas cédé sur l'Angoumois, trop près de la Guyenne, ce doit être pour cela. Il ne laisserait pas Navarre, si ce traité doit avoir effet, qu'à Dieu ne plaise, prendre pied entre l'Aquitaine et le Poitou. En revanche, il aurait accordé la Bigorre. Ce que Phébus, si cela lui est venu aux oreilles, ne doit guère goûter. Comme vous voyez, tout cela additionné, cela fait un gros morceau de France, un très gros morceau. Et l'on peut se surprendre qu'un homme qui prétend à y régner en abandonne tout à un seul vassal. Mais d'une part, cette sorte de vice-royauté qu'il confère à Navarre répond bien à cette idée d'empire nouveau qu'il caresse. Et d'autre part, plus il accroît les possessions du prince qui le reconnaît pour roi, plus il élargit l'assise territoriale de sa légitimité. Au lieu d'avoir à gagner les ralliements pièce à pièce, il peut soutenir qu'il est reconnu d'un coup par toutes ses provinces. Pour le reste, partage des frais de la guerre, engagement à ne point conclure de trêves séparées, ce sont clauses habituelles et reprises du projet précédent. Mais l'alliance est énoncée alliance perpétuelle. Je me suis laissé dire qu'il y eut une plaisante passe entre Édouard et Philippe de Navarre parce que celui-ci demandait que fût inscrit au traité le versement des 100 000 écus, jamais payés, qui figuraient sur le contrat de mariage entre Charles de Navarre et Jeanne de Valois. Le roi Édouard s'étonna. Pourquoi aurais-je à payer les dettes du roi Jean? Si fait, vous le remplacez au trône, vous le remplacez aussi dans ses obligations. Le jeune Philippe ne manquait pas d'aplomb. Il faut avoir son âge pour oser de ces choses. Cela fit rire Édouard III, qui ne rit guère à son ordinaire. Soit, mais après que j'aurai été sacré à Reims, pas avant le sacre. Et Philippe de Navarre repartit pour la Normandie. Le temps de mettre sur Vélin ce dont on était convenu, d'en discuter les termes, article par article, de passer les notes d'un côté à l'autre de la Manche, l'aîné, le cadet. Et puis aussi les soucis de la guerre, tout cela fit que le traité, toujours secret, toujours connu, au moins de ceux qui avaient intérêt à en connaître, ne devait finalement être signé qu'au début de septembre, au château de Clarendon, il y a seulement 3 mois, fort peu avant la bataille de Poitiers. Signé par qui ? Par Philippe de Navarre, qui fit à ce dessein un second voyage en Angleterre. Vous comprenez à présent, Archambault, pourquoi le dauphin, qui était si fort opposé, vous l'avez vu, à l'arrestation du roi de Navarre, le maintient si obstinément en prison, alors que, commandant séant au royaume, il aurait tout loisir de le libérer, comme de maintes parts on l'empresse. Aussi longtemps que le traité n'est signé que par Philippe de Navarre, on peut le tenir pour nul. Dès lors qu'il serait ratifié par Charles, ce serait une autre affaire. À l'heure où nous sommes, le roi de Navarre, parce que le fils du roi de France le tient prisonnier en Picardie, ne sait pas encore, il est sans doute le seul, qu'il a reconnu le roi d'Angleterre pour roi de France, mais d'une reconnaissance sans vigueur, puisqu'il ne peut la signer. Voilà qui ajoute un beau nœud d'embrouille, où une chatte ne reconnaîtrait pas ses petits, que nous allons tenter de défaire à Metz. Je gage que dans 40 ans d'ici, personne n'y comprendra plus rien, sauf vous, peut-être, ou votre fils, parce que vous lui aurez raconté.